Au mois d'avril, lors des séries de prédications sur l'Épître aux Colossiens, nous étions sur des sujets de reconnaissance pour rendre grâce à Dieu, lui dire merci. Juste le 14 avril, nous avions traité des sujets de reconnaissance pour ce que Dieu le Père a fait de nous et ce qu'il a fait pour nous. C'était Colossiens chapitre 1, versets 12 à 13. Puis le 21 avril, nous avions traité d'autres sujets de reconnaissance, cette fois-ci pour ce que Dieu le Fils, notre Seigneur, a fait pour nous. Nous étions sur Colossiens chapitre 1, verset 14. Et nous voyageons avec l'apôtre Paul dans ses pensées inspirées par le Saint-Esprit. Et maintenant, il nous amène à quitter un instant, entre guillemets, les sujets de bénédiction pour se fixer maintenant sur l'auteur de toutes ces bénédictions. Il veut que nous focalisions nos pensées sur l'auteur de toutes ces bénédictions, notre Seigneur Jésus-Christ. Mais ce qui nous amène aujourd'hui à la suite, donc Colossiens chapitre 1, versets 15 à 18. Je tiens à remarquer tout simplement que Colossiens 1, versets 15 à 20, dans le manuscrit original, c'est qu'une seule phrase. Une seule phrase. Nous allons le lire. Colossiens chapitre 1, versets 15 à 20. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Verset 16. Car, attention à les connecteurs logiques, c'est très important. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Verset 18, il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Deuxième connecteur logique, car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Verset 20, il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. J'ai dit une seule phrase, verset 15 à 20, dans le manuscrit original, en grec. C'est que, dans mes pensées, comme si Paul voulait en mettre plein la vue aux Colossiens sur la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'arrête plus. Mais pourquoi? Pourquoi? Cette seule phrase pour tout ce verset que nous venons de lire. Pourquoi? Parce que les Colossiens étaient confrontés en leur sein à des enseignements erronés. Et ces enseignements détrônaient la position et l'autorité de Jésus et le plaçaient sur le même plan que des éons. E-O-N-S. Mais qu'est-ce que c'est un éon? Pour faire simple, ce sont des êtres spirituels intermédiaires entre Dieu et les hommes. C'est comme des marches d'escalier. Si vous voulez aller vers Dieu, il faut passer par les éons qui sont hiérarchisés. Et pour eux, Jésus-Christ est l'un des éons. C'est celui le plus élevé, le plus proche de Dieu. C'est la dernière marche d'escalier pour eux, pour venir à Dieu. Et en aucun cas, Christ pour eux est considéré comme Dieu. Ces faux enseignants prennent ce que l'on appelle le gnosticisme. C'est-à-dire, on veut accéder à Dieu par une connaissance mystique réservée à quelques élites, les super spirituels, ces initiés. Donc, le problème, c'est que ces faux enseignants détrônaient Christ et le rangeaient parmi nombreux êtres intermédiaires qu'ils interposaient entre Dieu et les hommes, entre Dieu et l'univers. Et Paul veut combattre cela. C'est pour cela qu'il a mis plein la vue aux Colossiens pour vite aller décrire mais qui est Jésus-Christ. Il est Dieu. C'est le but de l'apôtre Paul. Et vous savez, quand vous comparez les épîtres de Paul, je dirais le passage que nous avons aujourd'hui à traiter nous donne une conception le plus élevée de la personne de Christ, et vous ne le trouvez nulle part ailleurs parmi les écrits de Paul. On ne trouve dans aucun autre passage de l'Écriture une liste comparable des caractéristiques de Christ, de sa déité, déité, ça fait référence à l'être de Dieu, ce qui fait qu'il est Dieu. Et la divinité, ça a à faire avec les attributs, les traits de caractère de Dieu. Deux choses. Alors, pour démolir cet enseignement erroné, Paul va nous présenter le Christ, le Messie, qui est Dieu. Et pour cela, il va montrer sa suprématie, manifestée dans trois domaines. D'abord, la suprématie de Christ manifestée dans sa relation avec Dieu le Père. Verset 15, première partie. Il va montrer la suprématie manifestée dans la relation de Christ avec la création. Verset 15, deuxième partie. Et il va montrer la suprématie de Christ manifestée dans sa relation avec son Église. Verset 18. Ce dernier point, nous n'allons pas traiter aujourd'hui. Donc, sans tarder, parlons de la suprématie de Christ manifestée dans sa relation avec Dieu le Père. Donc, ne perdons pas de vue les idées gnostiques. Christ est un héros, la dernière marche pour arriver à Dieu. Ça veut dire qu'il n'est pas Dieu pour les gnostiques. D'accord? Et Paul, maintenant, va démontrer qu'en aucun cas, c'est vrai, Christ est Dieu lui-même. Et donc, tout ce que nous allons voir maintenant, c'est pour prouver qu'il est Dieu. Donc, sa suprématie, déjà dans sa relation avec Dieu lui-même, Dieu le Père. Donc, nous lisons ici que le Seigneur est décrit comme l'image du Dieu invisible. Verset 15, le Fils est l'image du Dieu invisible. Le mot image, il faut le comprendre dans le sens de reflet visible. Et le mot image traduit au moins trois choses. D'abord, il exprime la manifestation. Dans quel sens? Dans le sens que le Christ nous fait connaître Dieu. Je fais référence à Jean chapitre 1, verset 18. Vous le savez, personne ne peut voir Dieu avec ses yeux naturels. Le Seigneur Jésus-Christ nous a permis de voir comment est Dieu. Comment est Dieu? Jésus donne la réponse, Dieu est esprit. Jean 4, 24. Si Dieu est esprit, Dieu est invisible à nos yeux. Mais le mot image exprime aussi l'idée de ressemblance. C'est-à-dire, quand la personne de Christ, Dieu s'est rendu lui-même visible aux yeux des êtres mortels que nous sommes. Il est l'expression parfaite, je dis bien parfaite, de la nature et l'essence de Dieu. Quand je dis l'essence de Dieu, c'est tout ce qui fait qu'il est Dieu. C'est l'être, c'est-à-dire les traits propres à Dieu. Donc en lui, l'être et la nature de Dieu ont été parfaitement manifestés. En lui, le Dieu invisible est devenu visible. Donc il manifeste Dieu fidèlement et parfaitement. Et c'est dans ce sens que Christ est l'image du Dieu invisible. C'est pas comme quand on fait une photocopie où on prend l'original et on fait une photocopie. Il y a quelques imperfections ici et là, même si c'est une photocopieuse excellente. C'est pas ça. Il manifeste dans sa totalité, dans son corps, quand il est venu ici-bas, tout ce qu'est Dieu le Père. C'est pour cela que Jésus lui-même a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Jean 14, 9. Mais le mot image explique également l'idée de représentation ou une révélation exacte. C'est-à-dire, le Christ représente Dieu pour nous. Tout comme l'effigie sur une pièce de monnaie, d'un souverain, de même Christ est l'empreinte, la révélation exacte de la personne du Père. Hébreux 1, verset 3. C'est intéressant que Paul lui-même, dans Colossiens 3, verset 10, va employer ce mot « image » et « icône » en grec, où les croyants sont désignés comme « image de Christ ». Ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Créé quoi? Créé l'homme nouveau. Et c'est ce que nous sommes en Jésus-Christ. Nous sommes ici pour représenter notre Seigneur Jésus-Christ par notre témoignage qui doit refléter le trait de caractère de notre Seigneur. Mais Paul montre aussi la suprématie du Christ manifestée dans sa relation avec la création. Pas seulement dans sa relation avec Dieu le Père, mais maintenant aussi nous allons voir dans la deuxième partie du verset 15, Christ, sa suprématie manifestée dans sa relation avec la création. Le Fils est le premier-né de toute la création. Le premier-né de toute la création. Ou le premier-né de toute créature. Mais dans quel sens? Dans quel sens comprendre le terme premier-né? Il y a au moins trois sens dans les Écritures pour l'utilisation de cette expression premier-né. D'abord, regardons dans Luc chapitre 2, verset 7, où il est dit que Marie enfanta son fils premier-né. Ici, l'expression est utilisée dans le sens littéral, à la lettre. Ça veut dire, Christ est le premier enfant à qui Marie donna naissance. J'aimerais que vous regardiez maintenant dans l'Ancien Testament, où on utilise cette expression, dans Exode chapitre 4, verset 22. Dieu s'adresse à Moïse pour aller auprès de Pharaon, demander la libération de son peuple. Et nous lisons verset 22, chapitre 4. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel. Israël est mon fils, virgule, mon premier-né. Israël est mon fils, mon premier-né. Rappelez-vous que Jacob, appelé par Dieu Israël, avait été précédé par son frère Ésaü à la sortie du sein de sa mère. Et pourtant, il est son premier-né. Donc, il n'est pas le premier enfant né dans la famille. Donc, dans ce verset, d'Exode 4, 22, il n'est pas question de naissance réelle, mais l'Éternel emploie ce mot pour décrire la place distincte qu'Israël occupe dans son plan et ses desseins. Oui, il ne faut pas le prendre au sens littéral, comme nous venons de voir dans Luc chapitre 2, verset 5. C'est pour décrire qu'Israël, aux yeux de Dieu, prend une place distincte de toutes les autres nations. Et il est là pour réaliser son plan et ses desseins. Regardez dans Psaume 89, verset 28, encore ce terme promené utilisé. Et ici, c'est un psaume messianique. Ça veut dire que son accomplissement total se trouvera plus tard dans le Messie. Mais le psaume, dans ce psaume, Dieu dit à propos de David, « Et moi, je ferai de lui, en parlant de David, le premier-né. » Ça veut dire quoi? Le plus élevé des rois de la terre. C'est la définition importante à retenir. Et moi, je ferai de lui, parlant de David, le premier-né, c'est-à-dire le plus élevé des rois de la terre. Et pourtant, David était le plus jeune des 8 enfants d'Isaïe, son père. N'est-ce pas? Donc ici non plus, ça n'a rien à voir avec son rang dans la naissance, dans la famille. Parce que David, en réalité, c'était le dernier né de son père Isaïe, comme nous venons de le remarquer. Et alors, qu'est-ce qu'est le sens qu'il faut donner ici, dans ce psaume? Ici, Dieu était déterminé à accorder une place unique de suprématie, de primauté, de souveraineté, le maître au contrôle de tout. Et vous savez, cette prophétie, elle n'est pas encore accomplie. Elle s'accomplira le jour où le Messie établira son règne de 1000 ans sur terre. Et il dominera sur le monde entier. Donc Dieu dit dans ce passage qu'il fera de David son premier-né avec un rang supérieur à celui des autres rois de la terre. Pourquoi? Est-ce que David était meilleur que les autres rois? Pas du tout. Nous connaissons sa vie personnelle, pleine d'échecs. Mais, non pas parce qu'il était le meilleur, mais parce qu'il régnait sur le peuple de Dieu. Dieu l'a choisi pour régner au sein de son peuple. Voilà la seule raison. Qui ne vient pas du mérite de quoi que ce soit. Et finalement, je veux citer encore Jérémie 31, verset 9. « Car je suis un père pour Israël, et Éphraïm est mon premier-né. » Jérémie 31, verset 9. Vous regardez la Bible. Hein. Éphraïm non plus, ce n'était pas l'aîné dans la famille de Joseph. Il était le deuxième, n'est-ce pas? Alors, à partir de ces exemples où l'expression premier-né est utilisée, dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qu'il faut retenir? Dans l'Ancien Testament, l'expression premier-né signifie simplement de première importance. C'est un haut rang, le plus élevé. C'est une grande dignité. Donc ce titre désigne un caractère ou un trait de supériorité, de suprématie, de prééminence. Il est élevé haut par rapport aux autres. Et alors, ça c'est important à retenir, et nous allons maintenant revoir quel sens donner à notre verset Colossiens chapitre 1, verset 15. Il est le premier-né de toute la création. Donc, quel sens donner à cette expression « premier-né de toute la création » dans le contexte de l'Épître aux Colossiens? D'abord, dans ce passage que nous venons de lire, Paul implicitement veut souligner surtout ce que le premier-né ne signifie pas. Le terme « premier-né » ne signifie pas que le Christ a été le premier être créé. Pourquoi? Vous savez, les Aryens, on appelle, les anciens ancêtres des témoins de Jéhovah, ils créent cela. Ils croient cela. Christ a été le premier être créé. Et Paul dit surtout pas. Pourquoi? Il y a deux choses, deux arguments qui prouvent que ce n'est pas vrai. Et on ne devrait jamais croire que Christ est fait partie de la création. Vous voyez, si Christ était le premier être créé, le mot grec dans le manuscrit original aurait été protoktisis. Vous avez accès à ça, téléchargez online Bible, vous regardez le mot. Si c'était le premier être créé, on devrait lire protoktisis. Or, ce n'est pas le cas. Ce qui est écrit, c'est comme premier né, c'est prototokos. Ça, c'est le premier argument. Christ n'est pas le premier être créé. Étymologiquement même, l'esprit a inspiré Paul de bien choisir le bon mot. Mais deuxième argument, le verset 16 et 17 que nous venons de lire affirme que le Christ a existé avant toute chose. Il a existé avant toute chose. Et il est le créateur de toute chose. C'est simple de déduire qu'il ne peut pas faire partie de la création s'il a créé toute chose. Alors, que signifie alors ce terme premier-né dans le contexte de Colossiens? En disant que Jésus est le premier-né de toute la création, l'apôtre souligne qu'il exerce une totale souveraineté sur toute la création, conformément à sa position de Fils éternel. Dieu, je répète, le terme premier-né de toute la création souligne que Christ exerce une totale souveraineté sur toute la création conformément à sa position de Fils éternel Dieu. Sa suprématie, sa prééminence. Alors, le titre premier-né de toute la création met donc l'accent sur la prééminence. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire une position de supériorité, de suprématie par rapport aux autres. S'il y en a d'autres qu'on peut appeler Dieu, il n'en a pas. Il est le seul. Donc Paul exprime ici la suprématie de Jésus-Christ dans sa relation avec la création. Il est au-dessus de tout ce qui a été créé avec le rang le plus élevé qui soit. Ça c'est pour montrer alors, pour démolir l'enseignement des gnostiques, c'est qu'il veut montrer par là que le Christ est Dieu. Il est au-dessus de toute la création en tant qu'autorité. Alors, maintenant, nous avons défini le sens dans le contexte même de notre passage, ce que signifie le terme premier-né. Paul, comme si cela ne suffit pas, va maintenant donner deux arguments de poids pour montrer sa souveraineté, sa suprématie, sa prééminence. D'abord, sa souveraineté porte sur la création matériel. Avez-vous remarqué que Paul utilise deux fois le verbe créer dans le verset 16? Deux fois. Quand on le lit comme ça, on ne voit pas quelque chose qui est important qui est derrière. Mais comme je vous ai toujours dit, Dieu parle à travers sa parole, c'est-à-dire par la grammaire, par les verbes, par les temps des verbes, par les adjectifs, par tout cela. Et ici, c'est très intéressant, parce que le verbe créer, qui est utilisé deux fois dans le verset 16, quand on regarde le temps des verbes, il y a quelque chose de fascinant. Verset 16, « Car en lui ont été créées toutes les choses, ont été créées. » Ici, le temps du verbe dans le grec, manuscrit grec à l'original, et c'est ce qu'on appelle l'aoriste. Qu'est-ce que ça veut dire, le temps du verbe aoriste? C'est simple. Vous mettez une droite. Et sur cette droite, imaginez dans le passé, il y a un petit point. On appelle ça une action ponctuelle qui est accomplie et achevée. Il n'est pas répété une seule fois sur la chronologie de l'histoire. Donc quand il a dit, en lui ont été tout créé, le temps du verbe laoriste, laoriste indique une action ponctuelle accomplie ou achevée dans le passé, le petit point. Qu'est-ce qu'il veut souligner par là? Il veut souligner le fait que la création en tant qu'acte se passait une seule fois à un instant donné dans le passé. Au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. Ce petit point. Il n'est pas renouvelé dans la suite. C'est un acte isolé dans le passé une seule fois. Et la Bible nous le confirme en Genèse 1, verset 1. En hébreu aussi. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ce verbe est utilisé aussi dans le verset 16, deuxième partie. Tout a été créé par lui et pour lui. Ici, tout a été créé, le temps du verbe est au parfait. Qu'est-ce que signifie le temps parfait dans le grec? C'est-à-dire, une action a été exécutée dans le passé, mais les effets persistent encore dans le présent. Retenez bien ça. Le temps parfait, il y a une action qui a été exécutée dans le passé, et les effets de cette action se prolonge encore jusqu'à présent. Exemple, j'ai mangé. Ça, c'est le temps parfait. Et les effets qui demeurent jusqu'à présent, parce que j'ai mangé, l'effet, je n'ai plus faim. Qu'est-ce que l'Esprit veut souligner par ce temps ici par rapport à l'aoriste que nous venons de voir? Il souligne que les effets de l'action de créer dans le passé est encore visible aujourd'hui. La preuve, c'est que l'univers est encore en vie. Elle est là. Elle tient debout. C'est ça ce qu'il veut souligner. Si vous êtes là, assis, si vous respirez, c'est l'effet de l'acte de création au commencement. Et vous êtes la preuve, l'effet perdure. On est là, on respire, on est vivant. Et ça, c'est ce que Paul veut souligner ici. Et donc, par rapport à la création matérielle, il va évoquer un premier argument. Pour montrer la suprématie de Christ. Il n'était pas le premier à être créé, il est le créateur. Il va le prouver. Le Christ est à l'origine de la création. Tout a été créé par lui. Verset 16. Donc toutes les choses, en tout lieu, en toutes sortes et de tout rang, ont été créées par lui. Donc c'est par l'intermédiaire du Fils que Dieu a donné naissance à la vie, à l'univers entier. Nous en avons vu dans les petites vidéos. C'est incroyable. Comment Dieu, dans sa sagesse, maintient en vie ce qu'il a créé. Le petit, les insectes, la fourmi, jusqu'à l'infiniment grand. C'est par l'intermédiaire du Fils que Dieu a donné naissance à la vie pour l'univers entier. N'est-ce pas? Hébreux 1, verset 2. Et Christ, on peut dire, est l'architecte de la création. Je me suis amusé un peu, avoir un projet de construction d'une maison où je veux finir mon vieil âge, si je peux dire. Eh bien, vous savez, en France, dans la construction d'un bâtiment important, on doit le faire en plusieurs étapes. C'est pas clic au doigt. Plusieurs étapes. D'abord, un architecte est là pour concevoir le bâtiment et préparer les plans, les spécifications conformément aux souhaits exprimés par le propriétaire. Ensuite, les plans sont soumis à des appels d'offres auprès de constructeurs, d'entrepreneurs, et le constructeur est choisi. Et après l'achèvement de l'édifice, il est occupé par le propriétaire et est consacré à l'usage auquel il est destiné. Retenons un peu cette idée. Venons à celui qui a créé l'univers. Tout a été créé par lui, notre Seigneur. Oui, par rapport à la création, notre Seigneur n'est pas seulement le constructeur de l'univers, il en est aussi l'architecte et le propriétaire. Tout a été créé en lui. C'est lui qui a fait les plans depuis toute l'éternité. Par lui, il est également l'agent de la création. Il a accompli la création. Il est à la fois l'architecte et le constructeur de la création. Il est le bâtisseur, si on peut dire. Tout a été créé pour lui. Il est aussi le but de la création. Et vous savez que l'histoire se dirige vers un but que Christ a fixé. Vers un but que l'univers tout entier doit glorifier le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. Il viendra le jour, c'est lui qui est le dominateur, règne en suprématie, et tout genou fléchira devant lui. C'est le but de tout pourquoi il est là. Mais nous faisons un tout petit peu partie d'une exécution à petite échelle de ce grand but de Dieu pour l'univers. Nous cherchons dans nos propres vies, dès maintenant, à glorifier le Seigneur. Imparfait qu'il soit, mais le désir est là parce que nous savons que Dieu a un plan pour l'univers tout entier, mais aussi pour nous en tant que rachetés du Seigneur. À l'échelle locale, individuelle, nous essayons de mettre en œuvre déjà la réalisation de ce plan global, de glorifier le Seigneur, le Créateur de l'univers. Nous cherchons dès maintenant à glorifier le Seigneur dans notre vie. Il évoque un deuxième argument aussi, par rapport à la création matérielle. Le Christ est également le soutien de la création. Le verbe soutenir veut dire tenir ensemble. Verset 17, « Toutes choses subsistent en lui ». Donc, Christ est la personne qui préserve et maintient l'existence de ce qu'il a créé. Merci Seigneur. Que Christ n'a pas créé l'univers et laissé se débrouiller tout seul. Nous n'en sommes pas là aujourd'hui, si ça a été le cas. Merci Seigneur. Il a créé, il maintient, il entretient, il tient vie que tout soit là comme il l'a créé. Il maintient la cohésion pour que tout tienne. Oui, il est le principe de cohésion de l'univers. Je dirais, il imprime à la création cette unité, cette solidarité qui en fait un cosmos. Le mot cosmos, c'est ordonné, arrangé, et non pas un chaos de désordre. Magnifique, réfléchissez autour de vous, levez les yeux. Cet ordre parfait qui maintient tout là, c'est grâce à Christ. Si je respire, c'est parce qu'il est là, il est vivant, il me tient. Pensez à cela. Je dirais chaque loi de la science qui s'exprime dans la nature de ce que Dieu a créé est l'expression de la pensée de Dieu. Et cette pensée de Dieu passe de la création, l'acte isolé, ponctuel au début, l'aoriste, Et ça se transmet dans la conservation, les effets que nous avons encore aujourd'hui. Ne serait-ce que dans nos propres vies, quand on regarde ce que le Seigneur fait, c'est magnifique. Tout ceci pour montrer clairement sa supériorité, sa souveraineté sur la création. Et encore, comme si ce n'est pas suffisant, Paul va insister que sa souveraineté se démontre aussi, non pas seulement dans la création physique matérielle, mais aussi dans son contrôle sur la création spirituelle. J'entends par là le domaine des esprits, des anges, bons ou mauvais. Colossiens 1, verset 16, « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. » Il faut ne jamais oublier que si Christ faisait partie des êtres créés comme les anges, on ne doit pas l'adorer. On ne doit pas l'adorer. Exode 20, versets 4 et 5. Et pourtant, nous lisons en Hébreux 1, verset 6, hein, et de nouveau, lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. La preuve que dans ce domaine des êtres spirituels, des anges, Christ n'était pas créé comme les anges. Il est le Créateur. Parce que il mérite l'adoration. Chose interdite selon la parole de Dieu. Mais lui, parce qu'il est Dieu, il mérite l'adoration de ses créatures. Il est Dieu pour démolir à nouveau les arguments de ses gnostiques. Il est Dieu, il mérite l'adoration même de tous les anges, mais aussi de ses enfants, toute la création de Dieu. Je veux m'arrêter et se dire, mais là, qu'est-ce que cela a à faire avec ma vie aujourd'hui? Qu'est-ce que le fait que Christ est l'image du Dieu invisible a à faire avec ma vie aujourd'hui? Qu'est-ce que le fait que Christ est le premier né de la création a à faire avec ma vie aujourd'hui? On va terminer par là. Oui, l'impact aujourd'hui du fait que Christ est l'image du Dieu invisible est très significatif à plusieurs niveaux pour nous. Reconnaître que Jésus est l'image du Dieu invisible signifie que pour connaître Dieu, nous devons regarder à Jésus. Mais regarder à Jésus, où il est au ciel là maintenant? Dans sa parole. Oui, cela souligne l'importance de l'étude de la personne, de la vie, de l'enseignement et de l'œuvre de Jésus. Où? Dans la parole de Dieu. Ça, c'est le premier impact pour nous aujourd'hui. En tant qu'image du Dieu invisible, Jésus est le médiateur parfait entre Dieu et les êtres humains. Oui, il est 100% Dieu pour satisfaire les exigences des perfections de Dieu et 100% homme. Et ainsi, il est le médiateur, le pont, le seul pour que je puisse venir à Dieu. Il n'y a aucun autre nom sous le ciel qui est à donner pour lequel nous devrions être sauvés. Acte 4, 12. C'est uniquement le nom de Jésus. Il est le médiateur entre Dieu et les hommes. Le fait que Christ est l'image du Dieu invisible, il ne faisait pas partie de ces éons, ces êtres spirituels, comme une marche d'escalier pour venir à Dieu. Non, je n'ai pas besoin d'autres intermédiaires pour recevoir l'exaucement de mes prières. Jésus seul me suffit. il est tout suffisant, le seul. Reconnaître Jésus comme l'image du Dieu invisible, c'est un élément central de la foi chrétienne. Sur quoi repose ma foi? Je parle du contenu de ce que je crois. Ça veut dire pour moi que Jésus est bien plus qu'un simple enseignant. Jésus est bien plus qu'un prophète. Il est la révélation ultime de Dieu lui-même. Celui qui m'a vu a vu le Père. Il révèle Dieu dans son être, dans ses attributs, dans ses perfections. Parfaitement. Et je tire une dernière application. Le fait que Jésus est l'image du Dieu invisible a une implication dans ma vie quotidienne en tant que croyant. Cela implique de chercher à refléter dans nos vies les caractères de Christ. L'amour, l'humilité, la compassion, la miséricorde, la sainteté et la justice, et la liste est longue. Et tout cela, nous l'avons vu dans la vie de Jésus. Et les chrétiens qui ont suivi essaient de le mettre en pratique dans leur vie. Les Épîtres nous le montrent. Et nous aussi aujourd'hui, on doit le vivre. On doit refléter dans nos vies les qualités de Jésus. Et alors, qu'est-ce qu'implique pour nous aujourd'hui le fait que Christ est le premier-né de toute la création? Juste deux choses. Ça veut dire que les croyants sont appelés à se soumettre à son autorité et à reconnaître Jésus comme le Seigneur. Quand on dit le Seigneur, ça veut dire qu'il est le maître de ma vie. Je suis son esclave. J'ai choisi avec joie volontairement d'être son esclave. Parce qu'il est le maître. Ça veut dire que dans ma vie, il ne devrait avoir aucun domaine où il n'a pas la main dessus. Et combien, Seigneur, je te demande pardon. Oh, ce domaine, je t'ai tellement le garder pour moi. Je ne veux pas de toi, Seigneur. Non, je veux le faire. Non. Il est le premier-né. Il a l'autorité, la suprématie. Je dois lui céder tous les aspects de ma vie. Si je le reconnais comme tel. Oui, cela implique aussi de reconnaître la prééminence. Il est élevé au-dessus de tout. La prééminence de Jésus comme le premier-né de toute la création. Et je dirais ça, c'est une protection. Et c'est là que nous rejoignons l'Épître aux Colossiens. C'est une protection contre les fausses doctrines qui minimisent ou altèrent la position de Jésus. Vous avez regardé l'histoire de l'Église, combien de conciles ont été dans l'histoire, marqué l'histoire, concernant tout simplement déjà la personne de Jésus, son humanité, sa divinité. Lisez l'histoire. Et toutes les conciles qui ont été mise en place pour trancher de ces questions. Il a bouleversé l'histoire. Et nous, aujourd'hui, il est le premier-né de toute la création. Je reconnais sa prééminence. Et ça, c'est une protection contre toutes les doctrines qui essaient de diminuer. Jésus moins quelque chose. Donc, soit cela doit m'aider en tant que croyant à rester ferme dans ma foi en Christ et de rejeter tout enseignement qui diminue sa suprématie. Et l'Église locale est là pour enseigner, pour répéter maintes fois qui est le Jésus de la Bible. Sa suprématie, sa souveraineté, son règne. Déjà dans notre cœur, mais plus tard, son règne littéral pendant 1000 ans. Mais nous nous laissons déjà ce règne aujourd'hui. Quelle place Jésus-Christ a-t-il aujourd'hui dans votre vie?